France Culture, toute une vie. Portrait d'une personnalité qui a marqué l'histoire et son époque.
Donc, par quoi je commence? Le premier qu'on a édité de Tezuka, c'est celui-là, c'est Debout l'humanité, qui est dessiné dans un style plutôt assez rapide, comme ça, dessin de presse. Ça peut rappeler Volinsky ou des choses comme ça. Ensuite, on a fait Alabaster, qui est très noir, comme ça. Et pour le coup, qui est un peu l'inverse en termes de dessin, c'est-à-dire que ça sent beaucoup le studio. C'est une espèce de fantomas. On a fait L'homme qui aimait les fesses, que j'ai pas ici, qui est un recueil de petites histoires. Ensuite, on a fait Néo Faust, voilà, qui là, pour le coup, c'est un de ses inachevés. Hop, voilà. Et aussi,
toute une vie.
Ça, c'est la femme insecte, je crois. Ouais, c'est ça.
Osamu Tezuka, le dieu du manga.
C'est le premier tome de la femme insecte.
1928-1989.
En japonais.
Un documentaire de Victor Massé de l'Épinay, réalisé par Véronique Samouilov.
Il a dessiné à peu près 170 000 planches de manga dans une vie qui a duré 60 ans. Il est mort à 60 ans. J'ai fait le calcul. Donc de sa naissance à sa mort, si on compte le nombre de jours et qu'on divise 170 000 planches de manga par le nombre de jours qu'il a vécu de sa naissance à sa mort, ça fait 7,5 planches par jour. C'est pas humain. C'est pas humain. Bon, il a eu des assistants peut-être à certaines périodes, mais enfin, voilà. Donc, c'est quand on dit le dieu du manga, moi j'essaye de croire que c'est peut-être plus que juste une métaphore.
Quand je vois arriver la date butoir pour rendre une planche le jour même ou le lendemain, d'une façon ou d'une autre, l'inspiration surgit. Tout le long du chemin pour aller au studio, j'imagine des choses, puis je change d'avis encore et encore. Et quand j'arrive, je me rends compte que ma première inspiration était finalement la bonne. En fait, je n'ai besoin que de 10 minutes pour trouver une idée.
Quelque part à Tokyo, voici l'endroit où travaille Osamu Tezuka, celui que l'on appelle le dieu du manga. Depuis ses débuts il y a 40 ans, pas un éditeur ni un magazine de manga n'a été autorisé à y pénétrer. Il est le seul à avoir la clé de cet appartement sans nom sur la porte. C'est ici qu'il passe tout son temps, penché sur ses créations. Commente le journaliste dans ce reportage qu'on peut trouver sur YouTube, sous-titré en anglais, et qui date de 1985. Très mis en scène, il montre néanmoins véritablement Tezuka au travail, avec ses assistants dans un grand open space, mais aussi dans ce petit studio austère d'un immeuble ordinaire où il s'enferme seul pour dessiner en écoutant de la musique et en regardant la télévision.
Tezuka, pour les Japonais, c'est un peu comme nous, Hergé et Walt Disney réunis. C'est-à-dire qu'il a eu aussi, il a eu de l'influence sur la bande dessinée, mais aussi sur le dessin animé.
Thomas Dupuis, auteur, fondateur des éditions Flubble Hub.
Et ses personnages comme Moustache, Astro Boy, Black Jack sont aussi iconiques que Mickey Mouse, Donald Duck ou Tintin, par exemple. Ouais.
Il y a en France des gens qui ne connaissent pas Tintin ou qui n'ont jamais lu Astérix.
Patrick Honoré, traducteur.
Je crois qu'il n'y a pas... Virtuellement, il doit y avoir 0,1% de Japonais qui n'ont jamais lu Tezuka, mais c'est quasiment pas possible.
Moi, je lisais n'importe quel manga du rayon jeunesse de la bibliothèque.
Léa Muraviec, autrice de bande dessinée.
Et du coup, j'ai commencé par Unico de Tezuka parce que c'était une petite licorne trop mignonne et c'était hyper déprimant et c'était très surprenant en fait, comme décalage de mélange des styles.
Et ça, Maria et la Bambola, en japonais, Yakepashi Maria, je crois. Ça a l'air d'être une histoire un peu étrange avec un jeune collégien qui a un ectoplasme qui lui sort de la bouche, comme ça, qui devient une jeune fille. Ça parle beaucoup de sexualité adolescente, quoi. Un peu grotesque. Plein de spermatozoïdes, oui, c'est super.
J'ai continué sur les rayons de la bibliothèque. J'ai lu Black Jack, j'ai lu Phoenix aussi, toute la série. L'enfant aux trois yeux et surtout Dororo, qui est peut-être celui que je préfère de tout ce que j'ai lu de Tezuka. Mais il n'y avait pas d'Astro Boy, donc j'ai jamais lu Astro Boy, j'ai jamais lu Bouddha.
C'est difficile d'en tirer, de le restreindre, parce que justement c'est une œuvre qui est protéiforme, qui allait dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de directions, et qui a beaucoup de périodes.
Critique de bande dessinée, Xavier Guilbert était l'un des commissaires de l'exposition Osamu Tezuka à Angoulême en 2018.
On voit qu'il y a pas mal de choses qui traitent de l'histoire, je pense aux Trois Adolphes, qui questionnent justement la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr le Phénix, qui cherche aussi à transmettre une forme de leçon de vie, leçon d'humanité.
Il écrit trois séries de mangas en même temps, explique le journaliste. Tout à l'heure, il écrivait la première scène d'une histoire pour garçons. À l'instant, il vient de dessiner la dernière scène d'une saga historique. Et en ce moment, il est en train de faire apparaître miraculeusement le nez de ses trois personnages principaux. Voilà 2 heures qu'il a commencé à dessiner. Il est absorbé par son travail, faisant bouger son crayon à une vitesse hallucinante. Mais on voit alors Tezuka s'arrêter. L'air absent, il pose sa tête dans ses bras croisés sur sa table de travail. Gros plan sur son visage. Le voilà qui dort comme un bébé. Et le journaliste reprend. Le dieu du manga est néanmoins un être humain. Parfois, son crayon est comme gelé. Luttant contre le sommeil, sous la pression des délais à tenir, Tezuka crée, depuis ce petit espace confiné, des héros qui s'envolent vers des univers lointains.
C'est à la fois un beau travail et quelqu'un qui était prêt à se défiler pour aller regarder un film. Donc il y a tout un tas d'histoires d'éditeurs qui montent le guet devant sa porte pour attendre les pages qu'il leur a promises. Mais voilà, il y a des moments où pour des questions de production, il devait produire des centaines de planches. Donc oui, c'était quelqu'un qui dormait peu et qui travaillait beaucoup et qui avait mis en place toute une structure autour de lui pour être capable de livrer ce genre de choses.
Il est encore totalement identifié comme le dieu du manga.
Patrick Honoré.
Même si, par d'autres aspects, je veux dire, la nouvelle génération de créateurs et d'auteurs de manga, Tezuka, c'est un peu le grand-père déjà. Il y a un livre fameux qui s'est appelé, en 2005 je crois, qui s'est appelé « Tezuka is dead ». C'était pour dire, bon voilà, ça y est, maintenant on peut passer à autre chose. C'est un peu comme les Beatles sont morts. Hein. Bon. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même la base de cet art graphique et de cet art du récit, qui est un peu plus que la bande dessinée d'un point de vue français ou italien ou américain. C'est pas simplement un moyen d'expression, c'est vraiment un art total, je pense. Et Tezuka, c'est lui qui a fondé les bases, même s'il y a eu une préhistoire, c'est lui qui a fondé les bases à la fois de l'industrie et de la sémiologie, enfin de la grammaire et des codes de cet art total, qui est encore fondamental de ce point de vue-là.
Tezuka est né en 1928 dans une ville qui s'appelle Takarazuka, un petit peu à côté de Osaka. Il vient d'un milieu bourgeois qui lui permet d'avoir un projecteur de cinéma acheté par son père.
Julien Bouvard, historien, spécialiste du Japon contemporain.
Et donc, de voir à la maison beaucoup de films, et notamment des films d'animation de Walt Disney. Mais il est aussi du côté de sa mère, influencé par le théâtre Takarazuka. Alors, c'est le même nom que le nom de la ville. C'est un théâtre très particulier, puisqu'il joue uniquement des femmes dans tous les rôles. Donc, c'est un peu l'extrême inverse du kabuki, où tous les rôles sont joués par des hommes. Là, c'est donc joué uniquement par des femmes. Donc il a eu une éducation culturelle assez hétéroclite, et en plus de cela, il lisait, bien sûr, les journaux pour enfants qui publiaient du manga.
Il explique effectivement que sa mère lui offrait des mangas, ce qui était assez sans doute exceptionnel pour sa génération à cette époque-là. Mais c'est d'abord Walt Disney qui le marque. Et quand il devient, après la guerre, quand il devient mangaka professionnel, dans son idée, il y a devenir Walt Disney. Et s'il fait des mangas et pas des dessins animés dès cette époque, c'est parce que le Japon a perdu la guerre. Il n'y a pas les moyens de le faire. Et pour lui, dès le début, dessiner des mangas sur papier, c'est faire du cinéma sur papier.
Tezuka n'est pas, comment dire, très original dans sa manière d'être influencé par les États-Unis.
Julien Bouvard.
Donc, il ne faudrait pas, à mon sens, créer des raccourcis et mettre en regard l'influence américaine sur le travail de Tezuka avec le contexte d'occupation des États-Unis. Alors, c'est effectivement un trait tout à fait crucial, mais le fait d'être influencé par les États-Unis, à vrai dire, ça existait déjà dans les années 20 et dans les années 30 dans la bande dessinée japonaise. Il a également été très touché par certains films d'animation japonais, et notamment un qui s'appelle Momotaro Umi no Shinpei, ou plus simplement Momotaro, le premier long métrage d'animation japonais, qui est diffusé en 1945 et qui est un vrai film de propagande. Simplement, il ne représente pas les ennemis de manière tout à fait directe, même si on comprend que les héros, malgré le fait qu'ils soient donc des animaux, sont les Japonais, et que les ennemis, en l'occurrence, sont des Occidentaux qui ont conquis certains territoires asiatiques. Il dit dans sa biographie avoir été très touché par le film et en avoir même pleuré d'émotion. Ce qui montre des sentiments ambigus vis-à-vis de la paix et du pacifisme, puisque traditionnellement on présente Tezuka comme le chantre de l'humanisme, de la paix. C'est effectivement le cas quand on lit Astro Boy et ses autres œuvres postérieures, mais il semblerait néanmoins que jusqu'à la fin de la guerre, Tezuka, qui n'était alors qu'un enfant, ait ressenti des émotions très contrastées vis-à-vis de la position du Japon en guerre.
En 45, donc il a 17 ans, il est jeune adulte, et la guerre c'est un élément essentiel dans sa vie, et c'est quelque chose dont il se rappellera tout le temps, et d'une certaine façon, à la fois la révolution sémiotique, la révolution grammaticale du manga opérée par Tezuka Osamu et induite par son expérience de la guerre, les gens qui partent, qui reviennent pas, les gens qui partent et qui reviennent blessés, amputés, ou les personnes déplacées, les morts de faim qu'on trouve au bord de la route. Voilà, ce genre d'expérience, ce sont des choses qui lui ont donnait l'idée, ou en tout cas qui ont exigé de lui, il s'est dit il faut que je raconte des histoires comme ça, et le manga tel qu'il existait, ou même que Walt Disney promeut, ou en tout cas qu'il voit, c'est des choses plutôt gentilles. Bon, ça se discute, hein. Je ne suis pas sûr que Bambi ou que Blanche-Neige soit exactement un film gentil, mais en tout cas ça essaye de véhiculer des idées de happy end, ça se termine plutôt bien, même s'il y a des morts. Bon. Et lui, il veut que les morts soient au centre. Hein. La révolution de Tezuka, c'est un peu ça, c'est-à-dire les personnages, quand ils sont blessés, ils saignent. Et ça a des implications dans la façon de conduire des récits qui sont fondamentales. C'est-à-dire, les personnages, ils doivent souffrir quand ils souffrent, ils meurent quand ils meurent. Je veux dire, c'est pas des personnages de papier. Il faut que les personnages, quelque part, ils soient vivants. Et je pense que tout le génie de Tezuka, c'est d'avoir réussi non pas à faire des petits Mickey, des petits personnages amusants, bien faits, jolis ou éventuellement héroïques, mais c'est de faire des personnages de chair et de sang, même s'ils sont sur le papier.
La nuit du 15 août 1945, le lustre géant dans le hall du grand magasin Ankyu était allumé. Je suis sortie pour voir dehors, la ville n'était qu'un champ de ruines, mais de ci, de là, il y avait des lampadaires allumés, à se demander comment cela se faisait qu'il en restait encore debout. Alors pour la première fois de ma vie, j'ai pensé, quel bonheur d'être vivant. J'avais faim, j'avais été plusieurs fois pris sous les bombardements, j'avais cru ma dernière heure arriver, mais cette nuit du 15 août 1945 à Osaka, en regardant la ville, j'ai eu la certitude d'être encore vivant pour des dizaines d'années. Quel bonheur! C'était la plus belle sensation de toute ma vie. Et cette sensation, elle est encore en moi aujourd'hui. C'est elle qui m'a donné la force de dessiner tout ce que j'ai fait depuis 40 ans. Non pas que j'ai pris la décision consciente de passer le reste de ma vie à dessiner et exprimer cette expérience, non bien sûr. Mais quoi que je fasse, c'est quelque chose qui ressort toujours dans mes dessins et qui ressortira aussi longtemps que je vivrai.
Le terme manga est rattaché à Hokusai, le peintre donc du 19e siècle, et désigne au début une série de 15 petits livres qui sont des carnets de dessin.
Xavier Guilbert.
Et donc Hokusai, qui est un peintre, qui a un atelier, est graphomane, il dessine tout le temps et donc il va publier ces dessins qui sont finalement des croquis peu intéressants sous le nom de manga, ce qui veut dire image dérisoire, image de petite importance. Et lorsque Tezuka arrive, il se lance dans le manga et ce qu'il va proposer, c'est du story manga, c'est-à-dire c'est ce manga très dynamique qui emprunte certaines de ses techniques au cinéma, c'est-à-dire ce que la grande innovation de Tezuka, c'est le découpage dynamique, la page qui bouge, les plans séquences, la dilatation du temps, le changement d'angle de vue, puisqu'une bonne partie des mangas qui existaient auparavant fonctionnaient sur un système de comme si on était au théâtre, c'est-à-dire que le sol se trouve toujours au même endroit, les personnages ont la même taille, et puis on a toujours le même type de point de vue. Avec Tezuka, tout change. On a des gros plans, on a des plans larges, ça bouge. Donc il y a ce côté un peu de tourbillonnant. Ça, c'est le story manga destiné aux enfants.
Donc il est né en 1928 et a connu très rapidement le succès. Je pense que l'élément fondateur, c'est Shin Takarajima en 1947. C'est-à-dire au moment où il a seulement 19 ans. La nouvelle île au trésor qui propose une formule assez nouvelle, puisqu'elle se présente sous forme de livre d'un peu moins de 200 pages. C'est un acaron, donc un livre rouge, c'est-à-dire publié sur un papier de mauvaise qualité, qu'on trouvait beaucoup dans la région du Kansai, donc du côté de Osaka. Donc c'est une adaptation du roman de Stevenson, d'environ donc 200 pages, c'est-à-dire à peu près le nombre de pages des mangas sous forme reliée actuelle, donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne là-dedans.
On est dans le Japon d'après-guerre qui est en pleine reconstruction, et il se trouve qu'il y a toute une industrie de bande dessinée qui va se développer dans ce contexte-là, parce qu'elle est imprimée sur un mauvais papier qui n'est pas soumis au quota de l'occupation américaine, et qui va se développer dans le réseau des librairies de prêt, les Kashibanya. Donc vous donnez un petit peu d'argent, et puis vous récupérez un livre, et puis vous le ramenez, et puis vous en sortez un autre. Il y a toute une industrie qui va fonctionner comme ça, avec beaucoup de systèmes de feuilletons, donc des séries qui se mettent en place, avec des rendez-vous réguliers. Et c'est là que sort donc Shin Takarajima, qui est vaguement inspiré de Stevenson, comme on va avoir d'autres classiques dont Tezuka va s'inspirer à ce moment-là.
Je ne suis pas vraiment adroit ni très habile. Je ne suis pas capable, comme le serait un artisan au sens fort du terme, de traiter à la demande une variété de thèmes ou d'idéologies. En fait, je retourne plus ou moins toujours sur le même thème, mais avec des assaisonnements différents. Parfois, ça prend la forme d'un récit de science-fiction, ou d'une histoire sentimentale pour filles, ou d'une histoire de samouraï, etc. Certains lecteurs trouvent sans doute que ça a un goût différent à chaque fois, mais en définitive, je pense que j'ai toujours traité un seul et même thème fondamental, de façon cohérente et uniforme toute ma vie.
Osamu Tezuka, ma vie manga.
Oui, ce que j'ai appris moi du manga de Tezuka et du manga en général, en lisant ce petit livre, les petites conférences dans lesquelles il parle de ce que c'est pour lui le manga, c'est premièrement que le manga, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, au Japon mais peut-être surtout en France, c'est que le manga c'est pas le dessin. C'est un peu aussi le dessin, d'accord. Mais bien sûr que le manga a un dessin qui est très reconnaissable. Mais pour quelqu'un comme Tezuka, le dessin n'est qu'un moyen d'expression. Ce qui compte, un moyen d'expression au sens presque secondaire, c'est ce qui remplace la caméra, comme je vous l'ai dit. Hein? Donc c'est presque quelque chose qu'il faut faire, et quelque chose qu'il prend plaisir à faire, et quelque chose qu'il fait vraiment bien. Mais le manga, c'est d'abord le scénario. C'est d'abord des histoires. D'ailleurs, au Japon, on dit que Tezuka a inventé le genre du story manga. Story manga, donc le manga récit. Hein? Avant, le manga, c'était plutôt des mangas personnages ou des mangas avec un gag, enfin des choses courtes. Et lui, il en a fait vraiment l'équivalent du cinéma de son point de vue, mais enfin de mon point de vue à moi, il en a fait quelque chose qui est absolument au niveau des plus grandes œuvres littéraires.
Les chiffres varient sur les chiffres de vente de Shin Takarajima, mais c'est véritablement un énorme succès qui va établir tout de suite ce jeune auteur, qui va donc continuer à faire florès dans cette industrie, en exploitant notamment d'autres grands classiques de la littérature occidentale, avec des revisites très très libres. Hein. Il y a donc Le Monde Perdu, inspiré de Conan Doyle, il va y avoir Crime et Châtiment, il va y avoir Metropolis, il y a des choses comme ça dans lesquelles Tezuka s'empare, et puis on fait des choses à sa sauce.
Il va inviter, convoquer d'autres grands personnages de la culture populaire comme Tarzan, comme pour signifier en fait l'influence américaine bien évidemment, mais aussi la volonté de réunir beaucoup de personnages. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de Tezuka, c'est d'avoir à chaque fois des œuvres chorales sur le plan des personnages où il va réutiliser les mêmes archétypes, hein, c'est ce qu'on appelle le star system de Tezuka, qu'on voit apparaître dès le début des années 50.
Ah oui, alors ça c'est très particulier avec Tezuka, c'est qu'il a une espèce de star system, c'est-à-dire qu'il a
Thomas Dupuis.
Il a des personnages qui reviennent dans tous ses livres quasiment. Alors il a certains personnages qui vont être plutôt des gentils comme Moustache, mais Moustache ça peut arriver que dans d'autres livres il soit un méchant. Il a un méchant qui est récurrent qui s'appelle Acétylampe. Alors il s'appelle Acétylampe parce qu'il est toujours dessiné avec une petite bougie sur le côté là comme ça, et lui il est plutôt méchant en général. Alors il apparaît dans Zero Man, mais il apparaît aussi dans l'histoire des trois Adolphe, c'est un nazi. Peut-être que c'est quelque chose qui vient aussi de Walt Disney, parce qu'en fait les personnages de Walt Disney restent toujours un peu les mêmes, Mickey, Donald, Dingo, mais ils vont dans les dessins animés en tout cas avoir plusieurs fonctions. Ils peuvent être, je sais pas, laveur de carreaux, mais lui, vraiment, c'est comme s'il avait une troupe d'acteurs et qu'il les faisait jouer dans ses différents mangas.
Lorsqu'on a fait, on a travaillé sur l'exposition, on était tombé sur ce document assez fascinant dans lequel il liste ses personnages, en face il met les types de rôles auxquels ils peuvent prétendre et leur cachet d'acteur, comme si finalement quand il commence un manga il est un réalisateur qui va commencer à faire son casting et à dire voilà, j'ai un budget, je vais prendre tel et tel personnage.
Le vol 0036 en provenance du Japon vient d'atterrir, intercepte-les à la sortie, les voilà, vite, fuis. Ah ! Monte, vite ! Suivez cette voiture. Accélérez, ils nous distancent. Allez-vous les suivre à la fin ? Fufufu, cela n'est pas nécessaire. Je regrette, mais je vais vous conduire ailleurs. Bon, dis-moi ce que tu attends de moi. Pour parler franchement, je veux ton visage, tes membres, enfin tout ton corps. Tout mon corps, gloops ! Pourquoi et dans quel but ? Parce que tu es le professeur d'astro. Astro ? Je suis en train de feuilleter le tome 3 d'Astro Boy, publié chez Sensei.
Léa Muraviec.
Et il se passe énormément de choses. Il y a du vent, des personnages accrochés, Astro Boy qui essaye de sauver une sorte de robot géant qui est en train de se disloquer et en même temps, il le tape. Je me rappelle quand j'étais étudiante à Lézy, à l'École européenne de l'image à Angoulême. J'avais un camarade de classe qui avait fait tout un livre où il avait gardé que les petits traits de vitesse et les nuages provoqués par Astro. Et c'était génial à la lecture, on voyait plus que ces petits éléments graphiques de langage de la bande dessinée. Et on se rend compte qu'il y en avait énormément et qu'on peut le lire même sans les personnages. Tezuka, il a vraiment un dessin très souple que j'aime beaucoup. Que j'associe peut-être aussi à un style des années 50-60 que moi j'aimais bien dans les vieux Lucky Luke par exemple, que j'ai beaucoup lu chez mes grands-parents, où le dessin était aussi très rond et souple. Et Même ces foules, là je tombe sur une page avec une foule en délire. On peut regarder n'importe quel personnage, on sent vraiment qu'il est habité. Disons qu'il a un dessin aussi très très généreux dans les décors, dans... C'est super.
Tetsuo un atome,
ça veut dire atome, bras d'acier, biceps d'acier. Mais en français, c'est Astro Boy.
C'est un robot qui a, alors je ne sais plus exactement combien de milliers de chevaux, 50 000 chevaux, enfin, il a une puissance qui est donnée. Il a un certain nombre d'armes, il a un canon dans les fesses, il a des réacteurs dans les pieds, il peut envoyer ses poings, il a un cœur extrêmement fort. Enfin, tout ça est extrêmement détaillé, généralement, au début des aventures.
Donc moi, j'ai découvert Tezuka, je pense, comme un peu tous les gens de ma génération, avec Astro le petit robot, qui passait à la télé quand j'étais môme. Mais j'avoue que c'était pas trop ma cam quand j'étais petit. Je trouvais ça un peu cucu, parce qu'il y avait Goldorak et Albator à côté, donc c'était quand même... Et quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, au début des années 90, Glénat a commencé à rééditer Astro Boy. Et du coup, j'ai redécouvert Astro Boy parce que, en fait, ça n'avait rien à voir avec mon souvenir. C'est-à-dire que moi, je me souvenais d'épisodes en couleur que je trouvais pas très intéressants. Et là, déjà, c'était des histoires courtes et en plus de science-fiction avec des préoccupations très. Même si c'est un manga jeunesse, je trouvais ça déjà assez sombre. Ça parle de racisme déjà, parce que c'est une société future où les robots sont à peu près à égalité avec les humains, sauf qu'il y a un racisme anti-robot.
Astro Boy, ou Astro le petit robot dans sa version française, a été publié pour la première fois en 1951 sous le titre Atomu Taishi, c'est-à-dire l'ambassadeur Astro. Donc, avant d'être un petit robot, Astro était en fait un ambassadeur censé trouver une solution dans un conflit opposant des extraterrestres et l'humanité. 1951, c'est aussi la date de ratification du traité de San Francisco, qui signe la fin de la guerre, en fait, hein, et la paix, surtout, entre le Japon et les États-Unis. Et quand deux nations sont à égalité et en paix, eh bien, elles échangent des ambassades, des consulats, des diplomates, etc. Donc, ce n'est absolument pas anodin que Tezuka choisisse ce motif de l'ambassadeur à partir du moment où il y a la paix.
Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot.
C'est un petit robot. Il a été conçu par son créateur, un professeur, un physicien, pour remplacer son fils qui est mort. Et donc, il a une parcelle d'âme, mais en fait, il est en fer. C'est un robot. Et donc, il essaye de devenir humain. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui est la différence entre un robot vachement fort, vachement intelligent, et un humain? C'est la même question que Pinocchio. Hein, c'est le petit pantin qui essaye de devenir humain. Dans Pinocchio, c'est plus une question morale. Astro Boy, c'est plus une question... humaine ou relationnelle. Donc il essaye de servir les humains, mais il a toujours cette conscience au fond de lui que il est toujours pas humain. Et donc il y a une... Je crois que le mot japonais qu'emploie Tezuka, c'est sabishi, sabishisa, que les dictionnaires français traduisent par tristesse. C'est pas exactement ce qu'on entend par tristesse, mais en tout cas c'est ce sentiment un peu négatif, un peu... coupable, c'est proche de la culpabilité.
Puis ce qui est profond quand même, c'est le tout début d'Astro Boy, qui est, je trouve, assez traumatisant, où on voit ce professeur fou qui, tellement triste de la mort de son enfant dans un accident de la route, veut essayer de le faire revivre à travers un corps artificiel, et au lieu de l'aimer simplement, en est déçu et le jette à la poubelle. C'est quand même assez traumatisant comme début de série enfantine. Donc on ne peut pas dire effectivement que ces séries-là soient si simplistes. Voilà, Astro, ce n'est pas simplement un petit robot, c'est aussi la question de l'acceptation, des différences, des discriminations. Hein. Il y a d'ailleurs un chapitre d'Astro Boy qui se passe avec des militants qui ressemblent à des militants du Ku Klux Klan. Donc, comment est-ce que ce petit robot différent peut arriver à s'intégrer et quel rôle il peut avoir pour aider l'humanité?
Mais moi, je pense qu'il y a dans le manga Astro Boy, particulièrement en tant qu'icône, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans presque tous les mangas, même encore aujourd'hui. Il y a l'idée que le personnage principal a un côté inférieur, ou blessé, ou handicapé par une raison ou une autre. Il a quelque chose de moins que les autres. Et je crois que c'est pas trop difficile de faire le lien avec l'idée de « nous avons perdu la guerre ». Et nous devons vivre avec ça, avec cette défaite. Il fallait accepter l'inacceptable et... Enfin, vous voyez. Et je crois que c'est une façon pour tous les lecteurs japonais de cette époque-là de s'identifier au personnage. C'est-à-dire, nous sommes vivants, nous sommes dans la communauté internationale, nous sommes un pays qui existe encore, mais nous traînons quelque chose. Et je crois que Astro Boy, voilà, il traîne son infériorité ontologique avec lui. Et moi, c'est quelque chose que je lis très fortement avec tous les personnages qui ont une mèche de cheveux dans l'œil. Ils ont tous un œil en moins. C'est juste une mèche de cheveux, mais graphiquement, c'est quand même un voile. C'est quand même une sorte d'une humanité qui peut parler qu'à moitié. Et je crois que tout ça, c'est le même signe.
Au milieu des années 50, voilà, le story manga vraiment règne en maître et c'est Tezuka qui en est le premier pourvoyeur et il a des séries donc qui fonctionnent beaucoup, donc Astro Boy qui va être décliné à la télévision, qui va encore plus amplifier sa popularité. Il y a Le Roi Léo qui est une série qui marche bien. Il y a aussi une série pour filles, Ribbon no Kishi, donc Princesse Saphir.
Ça c'est Princesse.
Et littéralement le chevalier au ruban, sachant que en japonais c'est pas genré, l'ambiguïté est là.
Traditionnellement, on dit que le shoujo manga, c'est-à-dire le manga pour filles, démarre avec Princesse Saphir. Et dès le début du manga pour filles, il a cette vision assez extraordinaire, je crois, de l'ambiguïté sexuelle comme étant la base de ce que les filles ont envie de lire. Et Princesse Saphir, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née fille. Elle vit dans son personnage de garçon, à la cour, sachant qu'elle est femme, et que le monde de la royauté en Europe au XVIIIe siècle n'est pas ouvert à ce que les filles vivent leur vie ou développent leur potentiel en tant que femme. Donc elle le développe en tant que faux garçon, on va dire. Alors, elle ressemble à qui, cette princesse Saphir? Graphiquement, sa chevelure, c'est Betty Boop. C'est ce personnage, au contraire, hyper féminin des dessins animés et de la bande dessinée américaine des années 20-30. C'est aussi dans Princesse Saphir que Tezuka va développer les grands yeux. Hein, vous savez, les grands yeux comme étant presque définitoires du manga, surtout pour les filles. Et là aussi, il joue sur le fait que la féminité s'exprime par ses yeux.
Pour dénigrer le manga, souvent on dira ah, « Pourquoi les personnages ils ont tous des grands yeux ?» Et en fait, c'est un code que lui a trouvé en voyant Bambi de Walt Disney. Il était très, très influencé par Walt Disney au début. Dans Bambi, tous les animaux ont des grands yeux, pour le coup, et il trouvait que ça faisait passer beaucoup d'émotions dans les yeux. Voilà. C'est pour ça qu'il a adopté ce code-là.
C'est pas seulement un genre. Les grands yeux, c'est aussi une façon de voir le monde, d'avoir les yeux ouverts sur le monde, je veux dire, il faut le dire comme ça.
Donc, c'est un peu l'âge d'or, au fait, hein, la première moitié des années 50, l'âge d'or de Tezuka, le moment où, effectivement, il va régner dans le monde du manga et influencer et créer énormément de vocations autour de lui. Donc, il a eu effectivement une aura vraiment incomparable au sein des dessinateurs de manga. Donc, cette aura, elle va s'exprimer notamment quand il va vivre dans une résidence d'artiste, qui est en fait simplement un bâtiment qui s'appelle la Tokiwaso à partir de 1953, où il va être un peu le leader d'un courant qu'on a appelé le story manga, c'est-à-dire le manga avec une longue histoire, par opposition en fait à des petites historiettes de 4 cases publiées dans la presse. Donc ça va lui permettre de former un groupe aussi, un groupe de dessinateurs autour de lui.
C'est Tezuka qui va mettre en place le système des assistants, dans lequel lui va dessiner, puis il va y avoir des assistants qui vont, certains, faire les décors, d'autres mettre le texte dans les bulles, parce que le texte est imprimé, découpé et collé dans les bulles, simplement tracer le bord des cases, remplir les noirs, ce genre de choses. Il y a tout un tas, mettre les trames. Ce sont des tâches qui vont être ensuite très spécialisées. Donc c'est Tezuka qui institutionnalise ce système. Donc ça, c'est l'une des premières véritables révolutions que va mettre en place Tezuka. Et puis ensuite, c'est le fait que il va beaucoup s'investir dans l'animation. Très rapidement, il voit le potentiel pour ça. Il est intéressé par l'image animée.
Du coup, assez tôt, il a voulu créer sa propre boîte de production qui s'est appelée Mushi Production. Alors Mushi, je crois que ça veut dire insecte, je crois, quelque chose comme ça en japonais. Et ils ont fait plutôt des séries. Alors il a été très novateur dans le monde du dessin animé pour la télévision, puisque ça a été les premiers à utiliser ce qu'on appelle de l'animation réduite, je crois. C'est-à-dire, c'est ce truc d'avoir le corps qui bouge pas et avoir juste la bouche qui parle. C'est-à-dire qu'on a on limité le nombre de dessins pour des questions d'efficacité. Et ensuite, il a fait deux longs métrages. Il y en a un qui s'appelle Cléopatra. Et il a fait aussi Les Mille et Une Nuits. Et c'était deux films qui étaient en scope, en plus, qui sont assez somptueux et qui étaient clairement destinés aux adultes, pour le coup. Et par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, ça que j'ai découvert par Arte, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Arte, il y avait une série qui s'appelait Snark, le soir. J'ai vu pour la première fois Jumping de Tezuka, qui fait partie de ces films. C'est des courts-métrages qui sont plutôt expérimentaux, dans le sens où ils tentent des choses, quoi, en termes esthétiques et en termes de narration. Et Jumping, on est en vue subjective. Et c'est un petit garçon qui commence à faire des sauts comme ça. Il saute comme ça, hop, hop, hop. Et plus ça va, plus ses sauts sont grands. Et au bout d'un moment, il va même sauter d'un pays à un autre, par-dessus un océan, etc., jusqu'à revenir à la fin. Voilà. Et ça dure 5 minutes, mais c'est incroyable, quoi. Il a fait aussi un film qui s'appelle donc La Goutte, où c'est un naufragé sur l'océan et qui est complètement assoiffé. Et donc, il y a une goutte de pluie qui va rester sur le mât de son bateau et qui va essayer d'attraper comme ça. C'est un petit cartoon, quoi. Ça peut ressembler à des dessins animés de la firme UPA aux États-Unis, par exemple. Et il y a aussi les tableaux à une exposition sur une musique de Moussorski qui est aussi un peu sur le même principe avec, dans un musée, quand personne regarde, les tableaux s'animent, quoi.
Quand la télévision arrive, il va voir l'intérêt de mettre à la télévision une série animée qui sera Astro Boy. Donc c'est 1er janvier 61, je crois. C'est un succès monstrueux. Ça sera vendu aux États-Unis ensuite. Et en même temps, c'est un succès qui va l'amener à sa perte, entre guillemets, parce que tout à son envie de bouger, de porter tout ça très loin, c'est pas forcément un très bon négociateur et il vend les épisodes bien au-dessous du prix qu'il coûte à produire. Et au bout d'un moment, il va se retrouver criblé de dettes et sa boîte de production, Mushi Production, fait faillite et il est obligé de la fermer. Là, on est vers 67-68, la fin des années 60. Bah, il se retrouve à devoir produire pour éponger ses dettes.
Qui dit faillite dit dette, qui dit dette dit recouvreur de dette. Et donc, il avait sur le dos les yakuza qui travaillaient avec les recouvreurs de dette et qui voulaient simplement lui faire signer des contrats pour donner les droits de ses œuvres en échange de ses dettes. Et Tezuka était tellement au bord du gouffre qu'il était prêt à le faire. Et il y a ce monsieur, Kasai Kenzo, il s'appelle, qui est un industriel. Il a dit, c'est pas possible, on peut pas laisser perdre ça. Et pourquoi Kasai Kenzo était en relation avec Tezuka? C'est parce que, à l'époque de son père, une génération avant, donc son père était le premier directeur de cette entreprise qui faisait des objets pour les bébés, il voulait utiliser le personnage d'Astro Boy pour mettre sur ses produits. Et Tezuka avait été gentil et il avait dit « oui, allez-y ». Ça avait sauvé l'entreprise de son père à cette époque-là. Et donc le monsieur Kasai, il s'est dit « bon, monsieur Tezuka, j'ai une dette envers vous, ben, je vais la rembourser. Voilà. Kasai a payé petit à petit toutes les dettes de Tezuka jusqu'à lui faire reprendre flou. Et les Yakuza, il les a gérés.
Et c'est un moment où il y a une sorte de double crise, parce que non seulement il est touché par ça, mais en plus, en 1967, il a 20 ans de carrière, il a 37 ans, c'est jeune, mais il est déjà muséifié quasiment, c'est le type d'hier, c'est celui qu'on lisait quand on était enfant, et maintenant on est passé à d'autres choses, il y a plein d'autres auteurs qui arrivent, il y a le Gekiga qui est arrivé, il y a plein de nouvelles expériences narratives qui sont en train de se passer, et le story manga de Tezuka qui est fait pour les enfants, c'est le truc d'hier.
Et donc pour essayer de simplifier, vous avez à l'époque d'un côté le story manga dont le représentant était Tezuka, avec ce groupe du Tokiwaso. Et il y a une autre tradition de bande dessinée qui apparaît à la fin des années 50, qui s'appelle le Gekiga, littéralement des images dramatiques, qui est un genre de manga qui essaie de se différencier du story manga, que ces auteurs trouvent un peu trop enfantin. Leur référence à eux, ça ne va plus être les dessins animés de Walt Disney, mais plutôt les films de polar, les thrillers, les films d'horreur. Et Tezuka était très critique vis-à-vis du Gekiga. Il trouvait que c'était vulgaire, que c'était trop facile d'attirer du public grâce au sang, en fait, grâce à la violence. Lui, au contraire, se contraignait sur ce plan-là. Finalement, dans les débuts des années 70, à un moment charnière dans sa vie, puisque Mushipro va faire faillite, donc son studio d'animation, il va perdre, je pense, beaucoup d'argent et d'énergie et une partie de sa santé à ce moment-là. Et il va prendre sur lui, peut-être, et changer radicalement son style de dessin pour adopter des compositions beaucoup plus originales, moins gaufrillées, telles qu'elles étaient donc dans ses mangas dans les années 50, et aborder des sujets plus profonds, parfois en lien avec l'érotisme, ce qu'il s'interdisait de faire jusque-là. C'est aussi à ce moment-là où il va retrouver un lectorat qui a vieilli, donc qui lisait peut-être Astro Boy quand il avait 5 ou 6 ans, et qui va redécouvrir Tezuka, mais avec des histoires beaucoup plus adultes, ou en tout cas destinées à un public plus mature.
Pour moi, ce sont les périodes, la période la plus intéressante, dans laquelle va y avoir Kirito, Barbara, Ayako, ces œuvres du virage Gekiga, qui sont des œuvres qui sont de recherche, des œuvres très, très adultes, et qui montrent un Tezuka très différent.
La femme insecte, c'est un espèce de polar avec un personnage de femme qui aspire le talent des gens qu'elle côtoie. Ça commence au début, elle reçoit un prix pour un roman qu'elle vient de sortir, et on s'aperçoit qu'en fait elle a volé ce roman à sa coloc, et la coloc se pend dans le même temps qu'elle reçoit le prix.
Il a, je pense, quelques obsessions en matière sexuelle, notamment des jeunes filles qui sont donc enfermées dans des petites boîtes. On retrouve cela en fait dans 5 ou 6 mangas différents. Donc là, il faudrait sans doute faire la psychanalyse de Tezuka pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est peut-être l'époque, le goût du mai 68 à la japonaise qui l'amène à aller sur ces sujets-là.
MW, c'est pareil, on a un personnage, espèce de terroriste, de malfaiteur, transformiste en plus, qui peut se déguiser successivement en femme, en homme, et qui juste fait le mal. C'est assez intéressant parce qu'en plus il est l'amant d'un curé qui se pose des questions morales à non plus finir.
Barbara, c'est d'une puissance sentimentale et émotionnelle, c'est fort. Ouais, ben voilà, on peut prendre cette page-là. Je crois que c'est un de ses sommets, graphiquement, même si peut-être les spécialistes diront que... Vous voyez, ça c'est un bâtiment, et les bâtiments sont pas droits. Ils sont assez flottants, ou en tout cas les verticales sont très sinueuses. C'est la vision des personnages. Alors ça c'est très années 70, vous voyez, c'est le moment où on a ces films de hippies ou de junkies, où pour montrer que les personnages sont drogués, on met des couleurs qui tournent. C'est un code très très fort pour lui. C'est de montrer comment dans la tête des personnages, le monde n'est plus stable, le monde n'est plus carré, et on ne sait plus trop si... on n'est plus sûr de soi. Voilà.
son discours politique s'affine un petit peu, sort de la dimension purement pédagogique des années 50 et essaye justement de trouver une complexité. Cette complexité, on peut la retrouver dans l'histoire des trois Adolphes, par exemple, particulièrement représentative d'une volonté non pas de relativiser l'Holocauste ou le nazisme, mais d'essayer de penser à chaque fois, de penser de différentes manières des problèmes complexes.
Dans les œuvres en bande dessinée qui parlent de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, je pense que pour moi c'est à égalité avec Maus. Enfin, c'est au moins aussi puissant, quoi. C'est un polar qui mêle avec de l'histoire, tout ça. Ça va même jusqu'au conflit israélo-palestinien. Donc enfin, je sais pas comment dire, il y a du souffle, quoi.
Il y a eu un moment où il a été un peu proche du Parti communiste japonais, sans y appartenir néanmoins, semble-t-il. Et sur le plan, de la géopolitique, dans les années 50, il avait une vision assez naïve, ou en tout cas qui se voulait naïve, puisqu'il pensait son médium donc à destination d'un public enfantin, et donc voulait aussi éduquer cette nouvelle génération aux valeurs de la paix, à la démocratie libérale. À la fin de sa carrière, en revanche, on fait face à un Tezuka plus sombre, plus nihiliste. C'est le cas avec des séries comme Blackjack à partir donc du début des années 1970.
Blackjack, c'est l'emblématique de la réinvention de Tezuka. En fait, c'est une série que Tezuka fait autour d'un médecin à la moralité un petit peu douteuse, qui est un chirurgien de génie et qui accepte d'intervenir pour $1 million à chaque fois. Et puis parfois, il va décider de faire des choses gratuitement. Donc c'est ce personnage balafré avec un visage qui est quasiment coupé en deux, qui illustre bien l'ambivalence du personnage. Puis au final, ça va être le plus grand succès de la deuxième partie de sa carrière.
Il ne faut pas oublier que Tezuka, de formation, il est médecin. Donc les cellules, la circulation sanguine, les bactéries, tout ça, il connaît très bien. Il en dessine beaucoup, mais il n'a jamais exercé.
À trois reprises, il va mettre en scène un médecin. Donc il y a d'abord Kirito, qui est une œuvre sur une maladie qui transforme les gens en chiens, et le personnage principal est médecin, atteint de la maladie lui-même, et il y a toute une question sur l'humanité. C'est une sorte de grand thriller, c'est extrêmement bien. Ensuite, il y a bien sûr le personnage de Blackjack, et ensuite il y a un personnage de médecin dans L'Arbre au Soleil, qui parle notamment de l'opposition entre la médecine japonaise traditionnelle et ce qu'on appelle la médecine hollandaise, qui est donc la médecine occidentale.
Moi, le manga de Tezuka que je mets au-dessus de tout, et je crois que je ne suis pas le seul, c'est Ayako. C'est un monument. Pour dire les choses très très simplement, Tezuka, il a écrit le scénario de Ayako en voulant refaire Dostoïevski, c'est les frères Karamazov, adapté au Japon de l'après-guerre. Donc c'est l'histoire d'une famille de notables de la campagne, et qui sont encore dans un système féodal. Et là, c'est la fin de la guerre, les Américains prennent le pays, imposent une réforme agraire, une nouvelle constitution, donc il y a des choses très très dysfonctionnelles dans cette famille, disons. Et en particulier, il y a cette petite fille, Ayako, elle va vivre une quinzaine d'années, enfermée dans la cave, parce qu'il ne faut pas qu'on sache qu'elle existe. C'est un sujet très noir, c'est du Dostoïevski. Et quand vous lisez Ayako, ça vous prend une nuit, on va dire, hein, une nuit. Vous pouvez pas dormir. Mais après, c'est comme si vous aviez lu Zola. Enfin, il y a plus besoin. Enfin, je le dis de façon un peu polémique parce que je sais que les profs de français vont me tomber dessus, mais j'aime ça. C'est du même niveau.
Alors, il y a une planche particulièrement poignante et que je trouve extrêmement belle, qui est une planche qui est tirée de Ayako. Et c'est une planche totalement dramatique, puisque c'est un mari qui est en train d'étrangler sa femme. Et en fait, c'est une planche qui est muette, hein, dans laquelle Tezuka utilise vraiment tout son savoir-faire, d'une part en déstructurant la planche, puisqu'en fait, ce sont que des cases qui sont triangulaires, comme quelque chose qui est en train de se casser. Et le moment dramatique où finalement il la tue est éclairé par une lumière, et derrière, on a juste un triangle avec les mains qui sont tendues dans un moment d'agonie. Voilà, c'est dans ce genre de détails, de capacité à faire passer des choses terrifiantes, parfois à d'autres endroits très belles, mais avec finalement une grande économie de moyens et une grande élégance. Voilà, il y a des moments comme ça qui sont absolument fabuleux chez Tezuka.
Il y a des moments qui sont très rapides, qui sont dessinés de façon très rapide, avec aucun décor, avec des traits de mouvement, etc. Et d'un coup, on va avoir une double page avec un grand décor réaliste. Il y a un truc très fort en termes de rythme de lecture, c'est-à-dire que le dessin lui-même va induire un rythme de lecture. On va avoir des planches qui vont aller très rapidement parce que c'est de l'action, et on va avoir des planches qui vont être dans la contemplation, et il va falloir s'arrêter, comme sur un tableau, quoi. Puis en plus, on peut avoir des choses vraiment de l'ordre du grotesque dans une histoire qui est très sérieuse. Ça c'est le cas aussi dans l'histoire de Trois Adolphes. Je me rappelle, il y a un moment, le personnage principal, qui est un journaliste sportif, il est surpris, et du coup, il est tellement surpris qu'il va traverser trois cases et puis atterrir dans la quatrième, quoi. Ce genre de rupture de ton, par exemple, ça, c'est des choses que peut-être on se permet plus maintenant, mais j'ai l'impression que c'était pas trop le cas avant.
Je trouve qu'il y a une sorte de... une liberté du ton graphique, en fait, de se dire je dessine comme je veux pour raconter ce que je veux. Je ne suis pas obligée d'adopter un style de dessin qui correspond au contenu de ce que je fais.
Ni bras, ni jambes, pas d'oreilles, pas de nez. Un visage avec tout juste des trous béants à la place de la bouche, des oreilles, du nez. Et pourtant, c'est bien un être humain. On voit une espèce de tête, mais qui ressemble à un crâne humain, quoi, parce qu'il y a c'est une boule blanche avec juste les orbites des yeux, mais qui sont des creux, en fait. Et il y a un creux aussi pour le nez. Il y a une toute petite bouche qui est juste un petit point. Et là, il est dans un espèce de kimono avec des fleurs. Et à un moment, le médecin va essayer effectivement de le. Il lui rajoute des trucs, il fait des coutures, ça ressemble un petit peu à du blackjack. Un mois de repos, tu devrais pouvoir te lever. Mais en fait, le petit garçon. Descend de la table d'opération et il se casse en mille morceaux comme ça. Dororo, c'est un bouquin qui se clôt mais qui n'est pas vraiment terminé. C'est-à-dire que le personnage du samouraï là, qu'on voit sur la couverture, il va devoir reconquérir ses yeux, ses membres, etc. en luttant contre des yokai. Je lis. Du matin au soir, la maison grinçait de partout, des voix se faisaient entendre dans les combles, des pierres pleuvaient. Et dans la case où il y a des pierres pleuvaient, effectivement, on voit des petites météorites qui tombent comme ça d'un bord de la case, et en dessous, il y a Tezuka en train de dessiner qui se les prend dans la tête.
Tezuka était très connu parce qu'il se représentait beaucoup déjà dans ses œuvres, toujours avec son fameux béret, le nez rond, et puis une sorte de bonhomie. Il y a plein de moments où il est en train de discuter ou de se faire prendre à partie par les personnages qui ne sont pas tout à fait d'accord de la manière dont ils sont traités. C'est quelque chose que beaucoup d'autres auteurs japonais sont mis à faire, notamment dans les sortes de petits apartés qui correspondent soit à une petite bande, sorte de micro postface qu'il peut y avoir à la fin des livres. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans Tezuka. Je crois que c'est dans Vampire où il est même un personnage à part entière, puisque Vampire commence dans le studio de Tezuka où il recrute un jeune homme qui se révèle être un vampire, en fait. Voilà, il y a toute cette histoire-là de mise en scène de sa propre histoire. C'est quelqu'un qui était bien ancré dans le panorama japonais.
Si son héritage est si important, c'est aussi peut-être parce que lui-même l'a construit en essayant de construire un mythe, oui, à la manière des grands dessinateurs comme Walt Disney, en écrivant sa biographie, en écrivant des manuels de mangaka, en participant à des événements autour de la bande dessinée à l'étranger. Il est venu à Angoulême, par exemple, en 1982. Il s'est déplacé dans des événements aux États-Unis pour essayer de représenter la bande dessinée japonaise. Donc il a toujours eu un rôle de leader, parfois contesté par ailleurs. Donc le fait que son héritage soit si important est aussi le fruit d'une construction de sa part à lui.
Il arpente les rues d'Angoulême durant le festival en 1982. C'est quelque chose qui est assez savoureusement ironique, puisque le thème qu'il y a sur l'affiche, c'est l'avenir de la bande dessinée. Et alors qu'on parle de l'avenir de la bande dessinée, on a donc l'un des plus grands représentants du manga qui est là et qui se balade complètement incognito et que personne ne remarque. Quand on voit à 40 ans de distance, oui, il y a quelque chose d'assez fascinant d'imaginer que le festival ait pu passer comme ça à côté de cet auteur. Il y a une sorte de rendez-vous raté. La seule œuvre qui traverse véritablement toute sa carrière et qui va être son grand œuvre et qui est inachevée, c'est le Phénix, Hinotori, cette immense fresque de science-fiction, d'histoire, qui embrasse énormément de choses.
En 1954, alors que j'avais eu la satisfaction d'achever Le Roi Léo, j'assistais à la représentation du célèbre ballet de Stravinsky, L'Oiseau de Feu. Je me sentis aussitôt envoûtée. Je compris que dans ce mystérieux oiseau, empreint de passion et d'élégance, je tenais un héros de drame à l'égal de Léo.
Sont des nouvelles qui ont toujours un peu une fin un petit peu philosophique sur des questionnements de ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'humanité, ce que c'est qu'être humain, comment sont fonctionnées les relations. Donc il y a des choses qui se passent à la préhistoire, il y a des choses qui se passent dans le Japon médiéval, et puis il y a des choses qui se passent dans une galaxie très très lointaine.
Au fond, chaque pays du monde conserve dans ses traditions un oiseau merveilleux semblable à ce phénix. Il me semble qu'ils incarnent symboliquement toute la puissance surnaturelle du souffle de la vie. Quelles que soient les époques et les vicissitudes, ils continuent d'observer les hommes avec un regard bienveillant. À travers ce phénix, j'ai voulu raconter à ma façon l'histoire du Japon, présenter le farouche acharnement des hommes et les frictions nées des convoitises et des désirs qui en découlent. Si les différents récits qui le composent semblent n'avoir aucun lien entre eux, le lecteur finira par saisir que chacun n'est au fond qu'un maillon d'une très longue chaîne, car l'histoire de l'humanité ignore les ruptures et les failles. Et dans cette longue histoire, c'est l'oiseau de feu qui joue le rôle de trait d'union.
C'est une œuvre qui est fascinante, qui varie. Alors là, c'est un peu le plaisir d'une anthologie, on n'est pas obligé de tout aimer. Elle est parfois un petit peu naïve aussi dans les premières, mais voilà, c'est une sorte de. On sent un amour de la narration, du souffle épique, de vouloir embrasser des choses, de vouloir pousser la bande dessinée vers de grandes choses.
Il a laissé des inachevés. Il y en a une, c'est une biographie de Beethoven, qui s'appelle Ludwig. Il a laissé Gringo, qui a été publié par un autre éditeur, et Neo Faust. Et donc à la fin de Gringo, on voit il y a deux trois pages qui sont dessinées où on voit Tezuka à la fin de sa vie qui dit bah voilà, j'ai commencé ce livre là mais je vais pas le terminer parce que je suis malade et je vais crever en gros. Et puis il fait tout un truc sur le fait que les Japonais travaillent comme des fous toute leur vie et ils meurent prématurément. Voilà. Ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Et apparemment quand il est mort, il avait entamé une série coproduite par le Vatican, quelque chose comme ça. Il a entamé une série sur l'Ancien Testament, je crois.
J'en ai fini. Ça prend du temps de faire des livres. Tellement de temps. Et maintenant, je dois faire 32 pages pour demain matin. Il faut avoir le temps. Mais peu importe, je me sens quand même bien quand je viens d'en finir un. Vous devez trouver ça un peu bizarre. C'est un travail si dur. 40 ans à faire ça. Faut être un peu stupide.
Tezuka, c'est un auteur, aujourd'hui on dirait global, mais en tout cas mondial et universel, au sens où il n'a aucun complexe de savoir « Oh, ça, c'est les histoires, les contes d'Hoffmann. Est-ce que je suis légitime à parler du romantisme et à parler de sentiments qui sont plutôt la chasse gardée de l'Occident romantique, allemand ou français ?» Il n'y a pas de complexe, au contraire. Et c'est grâce à ça qu'il, à mon avis, qu'il surpasse tout le monde.
C'était toute une vie, Osamu Tezuka, le dieu du manga. Merci à Léa Muraviec, Patrick Honoré, Julien Bouvard, Xavier Gilbert et Thomas Dupuis.
J'ai l'impression qu'on pourrait passer une vie à lire Tezuka quasiment. Une fois qu'on a fini de tout lire, on a envie de recommencer.
Merci aux éditions Delcourt, aux éditions Flubbelub et au Centre Pompidou qui nous a accueillis dans l'exposition 1964-2024, 60 ans de bande dessinée.
Lecture Léa Carchereux, prise de son Thomas Robin et Nadège Antonini, mixage Manon Houssin, chargé de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay, réalisé par Véronique Samouilov.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France. Vous écoutez France Culture.
L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes.
Guillaume Erner.
Ce sont les matins de 6h30 à 9h.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Pierre, feuille, vitraux. Notre-Dame de Paris, après 5 ans de travaux, la cathédrale rouvre ses portes.
Xavier Mauduit.
Retraçons l'histoire de Notre-Dame de Paris à partir de ses matériaux. Puisqu'il s'agit d'un livre de pierre, selon Victor Hugo, mais aussi d'un livre de verre avec les vitraux de la discorde. Et une cathédrale bien charpentée avec ses chaînes haute fidélité. Notre-Dame de Paris, riche de parchemins, l'histoire d'une bibliothèque médiévale.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture.